peut-être, suis-je malade, pour éprouver de si vives émotions à propos de tout. J'ai quelquefois le sentiment de ne pas être un vrai être humain, mais un oiseau, ou un animal quelconque qui aurait pris figure humaine. Intérieurement, je me sens beaucoup plus chez moi, dans un petit bout de jardin, comme ici, ou dans un champ, étendu sur l'herbe et entouré de bourdons, que dans un congrès du parti. À vous, je peux bien dire tout cela, vous ne me soupçonnerez pas aussitôt d'être traître au socialisme. Vous le savez. Malgré cela, malgré cela, j'espère mourir à mon poste, dans une bataille de rue ou dans un pénitencier. Mais dans mon fort intérieur, j'appartiens plus aux mésanges qu'à mes camarades. Ces mots de Rosa Luxembourg, glissés dans une lettre adressée le 2 mai 1917 à Sonia Liebknecht depuis la prison de Vronk, ces mots de la part de celle qui refuse de choisir, qui ne veut rien céder, ni au sentiment d'être vivante, ni à l'amour de la vie, ni à la révolution, ces mots par lesquels nous commencerons cette rencontre sont ceux par lesquels s'ouvre votre dernier livre, chère Corinne Morel d'Arleux, « Alors nous irons trouver la beauté ailleurs, gymnastique des confins », publié aux éditions Libertalia en octobre 2023. Aussi, avant tout, merci très très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à venir en discuter avec nous. Alors cette discussion sera animée par celles et ceux à même d'entendre peut-être mieux que quiconque les questionnements nombreux de ce livre nourri de lecture et d'expérience, comme de saisir la portée de l'ouvrage. Je parlais des collectifs que sont Greenpeace, Extinction, Rébellion et les Soulèvements des Volcans, l'antenne locale des Soulèvements de la Terre, avec qui cette rencontre donc a été co-organisée. Des flyers avec les coordonnées de chacune de ces trois organes, notamment, mais pas que, sont à votre disposition à l'entrée du patio, donc n'hésitez pas à vous servir. Des mobilisations importantes sont prévues dans les semaines à venir, donc tenez-vous au courant. Et je remercie donc aussi très chaleureusement Simon pour Greenpeace, Jules pour Extinction Rébellion et Guillaume pour les Soulèvements des Volcans qui ont généreusement accepté d'animer ensemble l'échange qui va suivre. Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont relayé l'information et merci à vous d'être là pour partager ce moment avec Corinne. Corinne, vous êtes essayiste, romancière, militante, ancienne élue politique. Vous animez le blog Revoir les Lucioles, contribuez à la revue Reporter. Vous avez été rédactrice en chef de ce numéro hors série de Socialterre intitulé Comment nous pourrions vivre. Vous avez publié divers ouvrages, notamment à destination de la jeunesse, Là où le feu est l'ours, le gang des chevreuils rusés, Être heureux avec moi. Vous avez publié un roman remarqué, La Sauvagière, chez Dalva, et plus récemment un livre-disque que nous vous proposons ici, 1000 exemplaires numérotés, Bestiaire érotique, manifeste tectonique, édité par les archives de la zone mondiale. Enfin, en 2019, nous avions eu la chance de vous recevoir pour un essai, Première petite merveille, publiée là aussi chez Libertalia, un livre qui vous fera connaître auprès d'un public de plus en plus large et qui ne cesse de se transmettre, de se partager, de s'offrir aujourd'hui encore, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Or ce livre n'est pas sans écho avec celui dont nous allons parler dans quelques instants. Il était question d'une éthique de la résistance, comme d'une invitation à la dignité du présent. À l'image de Morel, le héros de Romain Gary dans Les Racines du Ciel, Morel, ou le bandit d'honneur, je vous cite, le fou, celui qui ne sait pas désespérer, et ce livre dont vous direz tout y est, était celui qu'emporterait Bernard Moitessier pour sa longue route en solitaire, sans escale, à travers les mers du monde. Aujourd'hui, alors que nous irons trouver la beauté ailleurs, la navigatrice, j'aimerais dire que c'est vous qui nous embarquez, et qui nous invitait au voyage. Un voyage accompagné de livres, comme autant de compagnons de route, comme autant de présences, des livres comme autant d'inflexions dans votre cheminement, et comme autant d'étapes dans vos rapports au monde, et comme autant de décadrages de votre propre pensée, Des voyages dans le voyage, des voyages emboîtés pour une déambulation à la fois littéraire, géographique, contemplative. Une déambulation qui est une exploration, nous direz-vous, des confins, ses bords et ses marges du monde à la lisière du réel et de l'imaginaire, ces zones liminaires où l'un et l'autre s'effleurent, se touchent, se répondent, zones de troubles et de chevauchements, de passages et de correspondances, au sens de Benjamin. Les pistes se brouillent jusqu'à la linéarité même du temps, résurgence et préscience, passé, avenir, télescopé, dans ce présent inquiet de la métamorphose. Un ouvrage donc, comme une traversée intranquille, écartelée, travaillée par ses dissonances et faite d'aller-retour, de la fiction à la réalité, du familier à l'étrange, de la suffocation à l'émerveillement, du concret à l'abstrait, de l'intellect au sensible, de la violence à la beauté. S'extraire et revenir, déplacement, détour. Parce qu'au menu du monde qui va mal, je reprends vos mots, la liste est longue et n'en finit pas de décourager. Sentiment d'impuissance, épuisement militant quand tout est dit et que tout continue. Saturation, sclérose du politique, virtualité de la fuite via des technologies condamnées. Ce trop de réalité, ce trop de clics, ce trop de flux, ce trop de divertissement nous avale. L'inexploré n'a plus cours, il n'a plus ses sentiers. Nos désirs, pour partie, sont malades, quand il faudrait pourtant ne cesser de se poser et inlassablement ces questions aussi simples qu'elles seront déterminantes. Après quoi courons-nous et de quoi avons-nous profondément besoin ? Question du siècle, nous dites-vous. Et vous répondez, d'ailleurs. Nous avons besoin d'ailleurs, intime, fictionnel, expérientiel. Nous avons besoin de décadrage, d'utopie, d'autres visions du monde. Parce qu'à même de façonner en nous puis hors de nous des perspectives nouvelles, des perspectives viables pour tous, et façonnées par le bas, c'est-à-dire depuis nos vies quotidiennes, préfigurées par le sensible, que ce qui est pourrait être autrement et lui donner un visage, des contours, une réalité, une présence comme un déjà-là. Préfigurer et performer sans en attendre les ordres, ce que pourrait vouloir dire tirer de la locomotive du progrès le frein d'urgence. Enfin, se prendre soin de nos imaginaires, de nos perceptions, n'élimine pas la raison, mais lui refuse l'entièreté de la place dans les métaphysiques du monde. Se prendre soin de nos refus, c'est un prendre soin du possible, et c'est un prendre soin de nos joies. Quand la joie n'interdit pas le discernement, quand la lucidité n'interdit pas la grâce, quand la bienveillance n'interdit pas la combativité, quand le rêve n'est pas un renoncement, mais un compromis magnifique, en creux, une puissance d'agir, une véritable zone à défendre. Partant, prendre soin de ces merveilleux, insignifiants, comme vous nous dites, et de ce dérisoire, prendre soin de ces signes, c'est un prendre soin de lueur, captée par notre regard malgré tout, et c'est une histoire de coexistence, la joie et la douleur, la gioia de Pasolini, comme une forme de désespérance qui n'enlève rien à l'amour de la vie, mais la croix. C'est la joie de celui qui sait le point d'attache et la ligne de fuite. C'est la douleur provisoirement déjouée. Et ce sont des lueurs de luciole, la révolution dansée. On va donc, afin d'approcher au mieux quelques-uns des enjeux du livre, eh bien repartir du titre. Alors, nous irons trouver la beauté ailleurs. On terminera par « alors ». Alors qui sonne en creux, peut-être comme un constat d'échec, quelque chose qui ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, fonctionne mal, ce qui nous amènera à cette question face aux limites des actions de nature revendicative, quel levier activer, quelle stratégie ? Donc, dernière partie. Mais avant cela, ailleurs, on prendra le temps ici de revenir sur votre voyage en Inde, fil conducteur de ce livre, et sur cette notion même de voyage, intime, fictionnel, géographique, initiatique, s'extraire, fuir, se réfugier et restituer. Marielle Massé dirait « prendre le monde et le rendre », respiration. Et pour commencer, revenir sur la forme trouble de ce texte et ce « nous » du titre. L'ouvrage alterne entre le « je » et le « nous », entre le singulier et le pluriel, le plus intime et le plus collectif, le dialogue intérieur et la réflexion politique. Qui est ce « nous » ? Et de là, à qui vous adressez-vous ?
Bah d'abord, un immense merci pour cette magnifique introduction. Je crois vraiment que le prochain livre, je vous demanderai la postface, parce que c'est vraiment à chaque fois. Déjà en 2019, j'avais un souvenir absolument merveilleux du texte de Gaëlle. Et merci aussi d'avoir à nouveau préparé une table là-bas. Vous verrez, il y a mes livres, mais il y a aussi plein d'autres livres en fait qui sont des sources d'inspiration ou des. Enfin voilà, ça fait une espèce de petite galaxie littéraire et je trouve ça très chouette. De ne pas être toute seule et d'être en compagnie de ces autres autrices et auteurs. Et puis, merci bien sûr à vous toutes et tous, que vous soyez du côté du public ou du côté des animateurs. Je suis ravie d'être de retour au volcan avec ce titre. Et donc, pour répondre à la question du titre et de ce « nous », c'est un « nous » qui est évidemment forcément très subjectif. Enfin, je lui donne pas une définition, il n'a pas de définition universelle par essence. C'est un nous qui est un nous de camaraderie politique, mais c'est aussi un nous d'affinité littéraire, d'affinité amicale, d'affinité, et c'est vraiment pas pour en exclure les citadins, mais d'affinité d'une certaine forme de ruralité aussi, je pense, dans mon esprit en tout cas. Voilà, donc c'est un nous qui est à la fois très très subjectif par cercle concentrique autour de moi, ce qui est quand même un peu égotique, mais en même temps qui est aussi un nous qui est très souple, quoi, qui est très élastique. Et si on m'avait posé la question de ce nous il y a 5 ans, je l'aurais peut-être pas envisagé ou défini exactement de la même manière. Mais en tout cas, la forme que vous avez donnée à cette soirée me réjouit et pour moi, elle est très illustratrice de ce nous.
Du coup, je vais prendre la suite. Est-ce qu'on m'entend ? Ça marche ? Donc justement, vis-à-vis, on a parlé du titre. Maintenant, on va peut-être parler un petit peu du sous-titre, qui est la gymnastique des confins. Parce que beaucoup, à plusieurs moments dans votre livre, vous évoquez la notion de ce double voyage que tu as pu évoquer, des voyages incluant des voyages. Quel est l'intérêt, justement, de faire un voyage en Inde, par exemple, et en même temps de lire des ouvrages qui se passent ailleurs, dans une autre partie du monde ? Quel est l'intérêt de ce double voyage, ce va-et-vient que vous évoquez beaucoup dans la question de la gymnastique des confins, notamment ?
Oui, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, tout ça naît d'un refus, en fait, comme le disait Gaëlle tout à l'heure, à propos de Rosa Luxembourg, d'un refus que je partage vraiment avec elle et avec plein d'autres personnes, je pense, d'avoir à choisir entre la réflexion et l'action, entre la tête et les bras, entre une certaine forme de radicalité politique et un goût très prononcé pour la gentillesse et l'empathie, de refuser d'avoir à choisir entre s'émerveiller devant des fleurs et des bourgeons au printemps et, à côté de ça, prôner des actions de sabotage. Parce que pour moi, tout ça n'est pas du tout antinomique. Et je crois même que c'est un tort d'avoir laissé ces notions-là le devenir dans l'esprit de beaucoup de personnes et singulièrement dans un certain nombre de milieux militants. Et donc tout est parti de ce questionnement-là et du fait que depuis la sortie de Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, on m'interroge très souvent sur cette question hyper difficile qui est, en gros, comment est-ce que vous faites pour garder espoir, pour vous ressourcer voilà, bon, déjà, je suis pas sûre de garder espoir. Je suis pas sûre d'être hyper forte pour me ressourcer non plus. Mais en tout cas, ma réponse, au fil du temps, c'est de plus en plus rapprochée de cette question, justement, du va-et-vient. C'est-à-dire de dire, en fait, je pense sincèrement, parce que du coup, j'ai quand même essayé de me poser sincèrement la question, et je pense que, en fait, c'est vraiment ce mouvement de va-et-vient entre des périodes où je suis plus active, plus militante, plus sur le terrain, et des moments où moi j'ai vraiment besoin de m'extraire du collectif en fait, et d'être toute seule chez moi, de plus voir personne, d'être dans le silence, dans une forme de retraite du monde. Voilà, par exemple, ce type de va-et-vient. Et en fait, c'est vraiment, c'est même une notion d'équilibre physique en fait. Cette question du balancier, en fait, d'avoir besoin de ce mouvement. Effectivement, c'est très joli, cette idée de comment c'était, de prendre le monde, non, pour le redonner ? Prendre le monde et le rendre. Et ben, il y a un peu de ça, en fait. C'est-à-dire que, notamment depuis que j'ai une pratique d'écriture régulière et soutenue, j'éprouve encore plus le besoin par moment, bah justement, de m'arrêter pour avoir ne serait-ce qu'un temps de digestion, en fait, de toutes ces expériences, de toutes ces rencontres, de toutes ces réflexions qui nous traversent quand on est dans l'action, mais qu'on prend pas toujours le temps de vraiment laisser mûrir, hein, et surtout de laisser mûrir et de digérer pour soi, mais aussi pour être en capacité ensuite de les repartager. Qu'est-ce qu'on en fait en fait de toute cette expérience militante et autre, et donc voilà d'où cette idée de confins. Et après, évidemment, très rapidement arrive la question de comment on définit ces confins, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, quand on parle de confins, on pense à des confins géographiques, on pense à des lieux du monde qui sont éloignés du lieu là où on se trouve. On pense éventuellement à la notion de frontière géographique, de lieu lointain. Et tout le propos du livre était de... Alors c'était un peu délicat parce que j'ai commencé à écrire ce livre donc en Inde, où je suis partie à l'invitation de l'Institut français. J'ai été invitée dans une délégation d'autrices et d'auteurs français qui était menée par Annie Ernaux à l'occasion d'un gros festival de littérature à New Delhi. Et c'était très inattendu pour moi, en fait, quand j'ai reçu cette invitation. D'abord parce que j'ai pas l'habitude d'être invitée par les institutions françaises. Et que du coup ça me semblait complètement dingue, donc je pensais au début qu'il s'était trompé de Corinne Morel d'Arleux. Enfin vraiment, il y avait un truc complètement irréel. Et puis, évidemment, tout de suite, il y a eu le surmoi militant écolo qui est venu me chuchoter à l'oreille que quand même, en fait, j'étais plus du tout censée prendre l'avion et que est-ce que c'était vraiment très cohérent de partir en Inde. Et donc, comme je l'explique dès le début du livre, j'ai passé un espèce de compromis avec moi-même, on va dire. En me disant et en leur disant si je viens, la première chose c'est je viens pas pour quelques jours quoi. Si je viens pour un temps un peu long. Et la deuxième chose là plus avec moi-même je vais pas faire du tourisme et donc je trouve un moyen de poser un regard politique aussi sur ce que je croise en Inde et de le restituer d'une manière ou d'une autre, en tout cas que ça puisse venir alimenter des réflexions collectives. Je ne savais pas forcément à ce moment-là, dès le début, que ça allait donner un livre, parce que j'étais plutôt partie en m'accordant de ne pas écrire, justement. Donc c'était totalement raté. Mais en tout cas, bon, voilà, il y avait quand même ce premier paradoxe dès le départ, hein, dont on pourra reparler, parce que c'est pas inintéressant en termes d'enseignement, y compris pour moi, mais pour nous, c'est que moi, je me rends compte à quel point vraiment cette question de l'avion, elle est la plus compliquée pour moi, quoi. C'est vraiment il y a plein de choses sur lesquelles il y a aucun souci, le pli est pris, mais la question de l'avion et la question du déplacement culturel, géographique, de cet ailleurs géographique, pour moi, elle est vraiment hyper, hyper compliquée à gérer. Donc voilà. Et donc ça, c'était un peu le point de départ. Sauf que évidemment, il y avait besoin d'un déplacement très rapide de cette notion de confins qui pouvait pas se limiter à dire à tout le monde de prendre l'avion pour aller ailleurs, loin, et de regarder ce qui se passait. C'était évidemment pas le propos. Et donc de définir, d'essayer de définir les différentes manières qu'on a aujourd'hui de partir ailleurs. Que ce soit parce qu'à un moment donné, on a besoin de s'extraire des flux d'actualité, des flux d'information, de l'état du monde, des sollicitations, des notifications, de la foule, de la pollution, de tout ce que vous voulez. Donc comment est-ce qu'on s'extrait de ça et comment on essaye justement d'aller puiser de la ressource, pas forcément en emmagasinant plein de choses, ça peut être aussi justement au contraire en faisant vraiment le vide. Et donc c'est ce qui explique que tout au long du livre, on passe par plein de choses a priori assez différentes, mais qui pour moi ont cette cohérence-là. Que sont la littérature, bien entendu, puisque ouvrir un livre, ouvrir un roman, c'est quand même, pour moi en tout cas, un peu la voie royale, parce que le truc le plus accessible pour justement partir dans d'autres contrées, dans d'autres époques, avec d'autres personnes, voilà, donc changer complètement de cadre. Mais voilà, j'évoque aussi la question de la broderie en prison, par exemple. Je sais pas, enfin peut-être je vais trop loin parce qu'on va y revenir, mais donc c'est ça qui crée cette sinuosité peut-être du texte qui passe par plein d'endroits différents, mais avec ce fil conducteur de l'ailleurs et d'y trouver la beauté.
Là, ce sera plutôt sur la question de partir pour se retrouver et créer ou s'extraire. Alors là, je viens de tilter direct à ce moment-là un auteur que vous connaissez forcément, Monsieur Damasio, qui s'est bien extrait dans le fin fond de la Drôme pour créer et se retrouver. Par contre, sur la question de se ressourcer, de trouver des moyens de lutter, on avait un auteur en commun avec les camarades qui s'appelle Olivier Norek, que vous devez peut-être connaître, qui est un ancien officier de police de la police judiciaire du 93 et qui est maintenant auteur de Polar, qui a écrit un magnifique livre qui se passe dans l'Aveyron, qui s'intitule Surface, qui est un très beau portrait de femme, qui est une femme qui doit se retrouver après s'être fait exploser la tête par une balle. Mais surtout, il a écrit un livre qui s'appelle Impact, où en fait un ancien soldat a vu les ravages en fait de l'industrie pétrolière en Afrique, qui a touché sa famille, et qui décide de rendre justice lui-même, en poussant à la fois les grands patrons et les États à prendre leurs responsabilités. Et du coup, c'est un auteur qui, là, à l'heure actuelle, est dans le nord de l'Europe pour son prochain roman, mais qui surtout découvre de nouveaux territoires, découvre une nouvelle histoire, découvre de nouvelles personnes, une culture qui n'est pas la sienne, et s'en saisit. Mais du coup, il va se servir de tout ça pour avancer son propos. Et notamment dans Impact, il s'est servi de toute sa culture en tant qu'officier de police et toute sa culture aussi en tant que citoyen, de ce qu'il a pu lire, voir, des contacts qu'il a pu avoir. Notamment, il a écrit un excellent livre Entre deux mondes qui se déroule à Calais, où il y a passé 2 semaines avec ses collègues. Du coup, ce qui l'oblige aussi à passer les frontières du réel et aussi de l'imaginaire qu'on peut avoir du déplacement, et à écrire des choses très sombres. Et en fait, on se posait la question de à quel point est-ce qu'on peut pousser des personnages dans un livre, ou même soi-même dans son déplacement, au niveau de l'horreur ou de la beauté, et notamment sur la question de l'écriture du personnage, vraiment, enfin, l'image que vous pouvez en avoir par rapport à ce que vous avez pu vivre, que ce soit en Inde, par rapport à la manière dont vivent les gens, et notamment les castes les plus pauvres, ou par exemple, d'un point de vue de la dureté en fait, de notre parcours militant et politique. Alors, c'est deux choses très différentes, hein, mais voilà. Et de quelle manière est-ce que vous pensez pouvoir identifier les limites de l'écriture ?
Je vais répondre en deux temps, parce que sur la question du... Enfin, bon, je pourrais répondre en plein de temps, mais sur la question, en tout cas, de ce que ça déplace, en fait, d'être à un moment donné projeté dans une culture différente, dans un pays où on est soi-même l'étrangère, en fait, où on connaît pas la langue, où on est visible, repérable en tant qu'occidental, où on connaît pas les usages, où on est gauche et maladroite. Et je trouve que ça, par exemple, c'est une expérience qui est pas forcément directement réutilisable en tant que tel, encore que ça pourrait l'être dans un essai ou dans un roman, mais en tout cas moi c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti de manière très forte, en me disant mais en fait c'est une expérience que tout le monde devrait vivre au moins une fois dans sa vie, en fait, de pas être à sa place, quoi. Parce que je parlais tout à l'heure de gentillesse et d'empathie, là pour le coup c'est vraiment une expérience qui normalement développe les capacités d'empathie, de se mettre à la place de l'autre, et notamment à la place de l'autre étranger en France, quand on s'est soi-même senti étrangère dans une autre culture. Donc ça, par exemple, voilà, il y a des déplacements comme ça, et qui sont des déplacements qui sont pas sans lien en fait avec la question de la littérature et de la fiction. Parce que pour moi, une des grandes puissances du roman, c'est précisément de nous projeter dans le corps d'un autre que soi, en fait. Parce que quand on lit un roman, on regarde le monde à travers le regard des personnages qui sont pas soi, qui peuvent même parfois être des personnages très éloignés de soi-même, et qui ont une autre manière d'aborder le monde, de le regarder, qui ont d'autres conditions matérielles d'existence, qui ont d'autres parcours. Et pour moi, c'est vraiment un des gros apports de la littérature et un de ses grands intérêts aujourd'hui, c'est de nous entraîner justement à décadrer notre regard, à changer de rapport au monde, et à accepter enfin de considérer que la réalité n'est pas unique, qu'elle peut être très diverse selon les points de vue, selon les cultures collectives, mais aussi selon les parcours individuels. C'est ce que les anthropologues appellent des moments perspectivistes, c'est-à-dire des moments où on change de perspective. Et en fait, là, je crois qu'on est vraiment à un moment où, en fait, ce changement de perspective, on est en train de le subir de plein fouet, parce que, tout simplement parce que le monde tel qu'on le connaissait jusqu'ici est en train d'être ébranlé dans ses fondements, à la fois par la question climatique, par la question de la biodiversité, mais aussi par tous les tumultes sociaux, démocratiques qu'on est en train de traverser. Donc voilà, ça c'est peut-être un premier élément de réponse. Et dans le cas précis de « alors nous irons trouver la beauté ailleurs », ce qui s'est passé et ce qui en fait a déclenché l'écriture, qui est une écriture qui était plutôt archi coincée, parce que en fait plutôt couler en beauté que flotter sans grâce est sorti en 2019, donc moi je l'ai écrit en 2018, et depuis je sentais bien qu'il y avait une espèce de pression amicale pour ressortir un essai du même type de format chez Libertalia. Mais en fait, moi, j'étais totalement inhibée par le succès du premier, parce que du coup, on sait que le deuxième, il est attendu et que c'est assez intimidant. Et ensuite aussi parce que en fait, entre 2019 et 2024, ou 2023 pour la sortie l'automne dernier, bah en fait, moi, le monde, il me donnait pas du tout envie d'aller le regarder à la loupe et de le décortiquer pour en faire un essai, quoi. J'avais plutôt envie, justement, de me décrocher du réel, et ce qui explique que je sois allée davantage vers la fiction et vers l'écriture de romans, et notamment de romans pour la jeunesse. Enfin, je pense que tout ça n'est pas complètement par hasard, dans un espèce de truc de, en fait, là... le monde, le réel, je me le coltine suffisamment pour pas en plus m'atteler à la tâche d'écrire un livre là-dessus, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, le bouger qu'il y a eu aussi en Inde, c'est que tout d'un coup, en fait, j'ai été plongée dans un réel qui était presque fictionnel, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, cet objet du monde réel dont je suis invitée à me saisir, c'est un réel qui est tellement loin, qui est tellement différent, qui est tellement coloré, qui est tellement extrême à tout point de vue, que tout d'un coup le réel redevenait un objet dont j'avais envie de me saisir, quoi. Et notamment, il y a vraiment un déclic qu'on retrouve dans le livre, c'est qu'à un moment donné, donc je suis restée un mois là-bas, et à un moment donné, en fait, je me suis incrustée dans un groupe de chercheurs français et indiens qui regroupaient des sociologues, des agronomes, des géologues qui partaient en mission, en terrain, dans un endroit... dans une zone assez reculée en fait du Tamil Nadu en montagne, qui est une zone tribale qui a été reliée par la route, je crois, il y a seulement 20 ou 30 ans, et qui fonctionne encore selon des principes. Moi, ça m'a fait vraiment penser à une société agraire, quoi. C'est-à-dire que voilà, on est vraiment sur un principe de subsistance. D'agriculture principalement destinée à se nourrir et à nourrir les villages alentours. Et en fait, on y est arrivé à un moment de bascule, c'est-à-dire à un moment où tout d'un coup, les cultures commerciales destinées à l'exportation commencent à arriver dans les poches des entrepreneurs agricoles, qui arrivent avec des contrats, des semences, des pesticides et l'engagement d'acheter toutes les récoltes. Et donc, en fait, tout d'un coup, on a des paysans qui se mettent à cultiver des cornichons qui vont être exportés en Europe, par exemple. Donc, il y avait un moment de bascule comme ça, pareil avec une société qui fonctionne vraiment sans technologie, et j'ai même presque envie de dire sans technique, mais où les téléphones intelligents commencent à arriver. Donc, un moment de bascule comme... Moi, j'en ai pas croisé tant que ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même la grande majorité des lieux aujourd'hui, cette bascule, elle a déjà eu lieu, en fait. Et là, elle est en train d'avoir lieu. Donc, à la fois, c'est hyper triste. Enfin, moi, en tout cas, ça m'attriste énormément. Et en même temps, c'est hyper intéressant. Et donc, en vivant là un petit peu et en observant. Parce que c'est plus de l'observation directe, parce que on ne parle pas la même langue et c'est quand même compliqué d'échanger de manière un peu fine. Mais en tout cas, même juste par l'observation directe, il m'a semblé que ce que j'avais là sous les yeux, c'était non pas, comme certains pourraient être tentés de le dire, un reflet du passé, de la manière dont les sociétés occidentales fonctionnaient avant l'arrivée... des moteurs avant l'arrivée des énergies fossiles, avant l'arrivée du numérique, etc. Donc pas, non pas un reflet du passé, mais peut-être au contraire une sorte d'écho venant du futur de à quoi pourraient ressembler demain des sociétés qui auraient repris conscience de l'importance de l'alimentation et soit auraient pris conscience soit serait arrivé au bout des ressources disponibles pour continuer à faire fonctionner le numérique et la technologie au rythme où on l'a fait fonctionner aujourd'hui. Et c'est une réflexion que j'avais déjà eue avant, quand j'étais allée au nord-est de la Syrie, donc dans ce territoire qu'on appelait le Rojava, qui est un territoire auto-administré. Mais au Rojava, c'était vraiment un contexte très dur de c'était la fin, enfin la queue de comète de la guerre contre Daesh. Donc il y avait encore beaucoup de lieux de conflits armés et d'attentats suicides. C'était le moment où l'État turc prenait le relais pour bombarder, etc., toute cette zone-là, avec des pénuries d'eau, d'électricité permanentes. Et donc, c'était une vision plutôt dystopique d'une espèce de à quoi pourrait ressembler un effondrement sans État, sans eau et sans électricité. Alors que là, dans ces montagnes, tout d'un coup, il m'a semblé que, on était sur une vision pas complètement dystopique, en tout cas qui pouvait être plus désirable et qu'il y avait probablement des enseignements à en tirer. Voilà. Et après, il y avait, du coup, je suis hyper longue, mais il y a plein de choses dans la question, c'était riche. Mais après, sur la question des personnages de romans, parce que cette question, elle m'intéresse beaucoup. Parce qu'en fait, quand on vient, que je vous dise quand même, parce que c'est vrai, quand on vient en rencontre en librairie, souvent on parle de livres qui, ça y est, qui ont été écrits, qui ont été publiés, qu'on vient partager, et c'est génial. Mais en général, on est déjà dans un autre projet. Et donc, et en fait, on n'en parle jamais, ce qui est hyper frustrant. Et il se trouve que moi, je suis en train, je suis aujourd'hui dans un projet d'écriture qui est différent, puisque c'est un projet de roman. Et qui fait énormément écho à cette question, puisque c'est un roman dans lequel les personnages sont un schizophrène à tendance paranoïde, une vieille dame atteinte d'Alzheimer qui se perd dans la montagne, des rescapés très jeunes de crash d'avion. Et que, en fait, à un moment donné, quand je commençais à raconter ça à mon éditrice, je me suis rendu compte que, en fait, c'était assez, assez sombre, quoi. Qu'on n'était pas franchement dans la beauté, une forme de lyrisme, voilà. Et pareil, enfin voilà, après je vais pas faire mon autopsychanalyse, mais c'est quand même intéressant en fait. Enfin, je pense que c'est pas un hasard en fait. Alors il se trouve que tout ce petit monde-là se retrouve dans la jungle, dans la forêt tropicale, et que donc il y a quand même des moments d'émerveillement, même si ça se passe pas hyper bien pour eux. mais donc, oui, enfin moi je suis pas du tout étonnée en fait que dans les romans, même les romans de pure fiction, je parle pas de romans à tendance autobiographique, mais même dans les romans de pur imaginaire, c'est logique qu'il y ait des choses qui ressortent, qui soit quand même assez, assez sombre. Enfin voilà, moi je travaille beaucoup autour de la question de la santé mentale et de la psychose. En fait, les choses sont juste de plus en plus dramatiques, ça aggrave considérablement, que ce soit au niveau des services de prise en charge du côté de la santé publique, ou que ce soit globalement des statistiques en termes de santé mentale. On parle beaucoup chez les jeunes, mais de manière plus globale, en fait, au niveau de la population, quoi. Donc, en fait, toutes ces thématiques-là, forcément, elles ressortent aussi. Et surtout, j'ai même envie de dire, quand on est dans de l'écriture de fiction, parce que l'écriture de fiction, c'est vraiment... c'est Freud qui parlait de la voix royale pour l'inconscient quand il parlait des rêves. Mais en fait, l'écriture de fiction, elle fait aussi beaucoup appel à l'inconscient des auteurs et des autrices. Et donc, ça ressort parfois un peu par gros paquets comme ça, de manière finalement pas très surprenante, quoi.
Du coup, je continue. Justement, vous avez parlé de la jeunesse. Donc, c'est un sujet qui me concerne personnellement. Donc, voilà. Je vais me permettre d'en parler. Vous parlez beaucoup à un moment donné dans votre ouvrage du refuge dans les écrans, comme ce qu'on appelle ce que vous appelez un paravent numérique, notamment. Est-ce que, justement, il n'y aurait pas une possibilité, avec de plus en plus d'activistes qui font ça sur les réseaux sociaux, de créer aussi. Dans ces milieux-là, des récits et des brèches qui permettent justement de sortir ces réseaux sociaux, on essaye d'oublier les choses, le monde réel. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de, aussi de s'en servir dans le bon sens des réseaux sociaux, voilà, à travers même des films qui peuvent être disponibles sur Netflix, YouTube, des trucs comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité à ce niveau-là ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, moi j'en pense du mal. Moi je pense que je suis vraiment en train de, pour le coup, de me radicaliser énormément sur cette question des réseaux sociaux et du numérique, parce que en fait là les dégâts deviennent trop importants en fait pour personnellement que je puisse même envisager en fait de les utiliser en les retournant ou en faisant des supports privilégiés. Alors évidemment, je comprends très bien la question et elle est légitime et pertinente. Hein. Mais c'est vrai que par exemple, voilà, moi j'écris des livres qui sortent en format papier. Clairement, je sais bien que je choisis pas la voie la plus simple pour toucher un public très nombreux, quoi. Si ma seule motivation était l'impact de ce que je fais, j'aurais plutôt essayé d'aller faire des séries ou de participer à l'élaboration de jeux vidéo ou des choses comme ça. Moi, il se trouve que j'aime écrire et que j'aime le livre, donc c'est vers ça que je suis allée, mais j'ai bien conscience que c'est pas là où ça se passe aujourd'hui majoritairement, quoi. Et donc la question, elle peut se poser effectivement, de se dire, bah, est-ce que en fait on n'aurait pas intérêt à justement investir ces espaces du numérique pour faire passer nos idées, pour faire passer d'autres récits, d'autres imaginaires. Mais en fait, je crois vraiment de plus en plus que, en fait, c'est trop antinomique, quoi. C'est-à-dire que tous les ressorts, en fait, aujourd'hui du divertissement numérique reposent sur des bases qui sont à l'opposé, en fait, de ce qu'on souhaite. Sur des bases addictives, sur des bases commerciales, sur des bases de non-liberté de choix par la manière dont les algorithmes vont décider de ce que vous allez voir ou pas, des bases de captation de l'attention. Et donc, en fait, tout ça est tellement dans son essence même, exactement à l'opposé du projet politique que l'on porte, qui me semble que, je dis il me semble, hein, parce que je ne suis pas du tout sûre d'avoir raison, mais en tout cas, moi, il me semble que c'est un piège, en fait. Que en plus, les moyens sont tellement disproportionnés, et je vois comment déjà la capacité du système capitaliste à tout phagocyter, à tout récupérer, les mots, les concepts, les actions, et même aujourd'hui la contestation d'une certaine manière, que je me fais aucune illusion sur la capacité des géants du numérique de la même manière à très vite récupérer les choses, et que probablement on serait accueillis à bras ouverts chez Netflix ou chez Amazon pour proposer des fictions écolo qui montrent des gens qui adorent enlacer les arbres et qui même peut-être montrent des ads de temps en temps. Je suis sûre que ça passerait sans problème. Oui, bah ça passe déjà. Bon, et donc c'est, enfin voilà, c'est toujours la même question, quoi. Est-ce que on se dit, bah oui, mais sans être dupe, par ce biais-là, on touche quand même des personnes qu'on touche pas en publiant chez Libertalia. C'est une vraie question. J'ai pas de réponse définitive, mais à titre personnel. J'ai plutôt envie vraiment de tout faire pour que tout le monde fuit le plus vite possible ces endroits-là, quoi. Pour tout un tas de raisons. D'abord, le premier, parce que ça enrichit quand même des gros pourris qu'on n'a pas du tout envie de voir continuer à s'enrichir et faire des profits. Et puis ensuite, parce que je parlais de santé mentale. Enfin, je sais pas si vous avez... Je crois que c'était ce matin que j'entendais à la radio encore des cas... vraiment, enfin, avec des urgences psychiatriques qui reçoivent aujourd'hui des enfants de plus en plus jeunes. Donc certains ont pas 6 ans, parce que tout d'un coup, les parents, après avoir laissé les gamins pendant des heures devant les écrans, se rendre compte que en fait c'est un vrai problème parce qu'il y a des retards d'apprentissage sur le langage, parce qu'il y a plus de contact visuel, il n'y a plus de réaction au contact visuel, etc. Donc arrête d'un coup les écrans et en fait provoque des vrais symptômes de manque. Chez des gamins qui sont de plus en plus jeunes, quoi. Avec des. Enfin, voilà, c'est effroyable, quoi. Avec du manque de sommeil, avec. Enfin. Enfin, voilà, plein de problématiques de développement cognitif, etc. Et donc, voilà, c'est pour ça que je disais, les dégâts, en fait, aujourd'hui, sont tellement énormes que, à côté de ça, le gain éventuel, même en termes d'audience, franchement, en fait, pour moi, ce serait un peu cynique, en fait, de dire « bon, ok, c'est pas super, mais on y va quand même ». Je trouve que non, en fait, c'est pas que c'est pas super, c'est que, en fait, c'est en train de nous flinguer, en fait. Et là, j'ai juste pris cet exemple-là, on pourrait les multiplier, y compris sur la gabegie que ça représente en termes de matière, d'énergie, d'eau... Et puis de pesanteur du monde, parce que évidemment, ce qu'on nous a présenté comme étant virtuel et dématérialisé, en fait, c'est hyper matériel. On a des énormes tuyaux qui traversent le fond des océans. On a ces espèces d'énormes entrepôts serveurs qui doivent être climatisés pour être refroidis, qui s'installent sur des terres agricoles. Enfin, en fait, c'est vraiment tellement un condensé de tout ce qu'on exècre. Que j'ai du mal à me dire que on peut être plus malin et enfin voilà et faire du judo politique avec des adversaires pareils quoi.
Mais une manière d'y répondre, c'est peut-être qu'en publiant chez Libertalia, vous touchez moins de monde, mais vous les touchez différemment. Ça crée ce genre de rencontres, ça crée ce genre de moments. Et je me demande aussi au sein des luttes, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se passait, si on travaillait autrement, la mise en réseau et la mise en relation, ça créerait peut-être des dynamiques aussi plus solides. Enfin, je pense que c'est une manière d'y répondre, c'est qu'il y a moins. On perd en quantité, mais on gagne peut-être en qualité relationnelle.
Oui, puis il y a aussi une autre manière d'y répondre qui est peut-être davantage polémique, enfin, ou en tout cas sujette à controverse, mais dont je parle aussi à la fin du livre. C'est cette question de la conscientisation, de la sensibilisation, de provoquer des déclics chez de nouvelles personnes, par le biais des livres, des séries, des films, de l'art et de la culture, qui est quelque chose que moi j'ai beaucoup porté. Je pense qu'elle perd aujourd'hui beaucoup de sa pertinence, en fait. Je pense que j'ai l'intuition, on va dire, qu'on arrive à un espèce de plafond de verre de la conscientisation sur ces thématiques-là. Parce qu'il y a 15 ans, on pouvait vraiment penser qu'il y avait un déficit d'information, que c'était pas très concret, qu'on parlait d'échéances lointaines, que les gens ils avaient des galères immédiates. Bon, il y avait plein de raisons d'expliquer que ça percutait pas plus que ça. Aujourd'hui, je veux dire, l'information, ça y est, maintenant elle est présente. Les effets dans notre quotidien, ils commencent à être largement présents aussi. Je veux dire, il y a des villages partout en France maintenant qui, l'été, se retrouvent périodiquement ravitaillés par camions-citernes parce qu'il n'y a plus d'eau qui coule du robinet. On a des sécheresses, on est rattrapés par les incendies de forêt et les méga-feux qui, jusqu'ici, étaient assez lointains, qu'on voyait se dérouler en Australie ou je ne sais pas où. Donc, les effets, ils commencent à être palpables. Et donc, je pense que maintenant, en fait, les blocages et donc les leviers à actionner sont beaucoup moins dans le fait de faire de la sensibilisation. Je pense qu'il faut continuer à en faire parce qu'il y a toujours des personnes à récupérer, à aller convaincre des gens, je sais pas, qui ont passé les dernières années à écrire un roman. Bon. Et puis des jeunes qui arrivent aussi. Donc, et puis ça peut être un premier sas d'entrée dans un parcours politique. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter, mais là où avant on mettait vraiment le paquet, je pense qu'aujourd'hui c'est plus là qu'il faut le mettre, en fait. Et que une grande partie des personnes qui aujourd'hui ne sont pas convaincues, pour tout un tas de raisons dont toutes ne sont pas mauvaises, hein. Il y a aussi une grosse part de déni qui est liée au vertige terrible en fait que ça ouvre quand on commence à vraiment capter ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, je crois pas que ce soit de regarder un film qui va modifier ça. Et donc maintenant, il me semble qu'il faut qu'on passe sur d'autres leviers, et notamment sur les leviers qui dépendent pas des individus en fait. Parce que c'est bien joli d'aller faire de la conscientisation et de la sensibilisation et de la prise de conscience. Mais une fois que tout le monde a pris conscience et qu'on a toujours un gouvernement qui continue à trouver que c'est super de déployer la 5G et de construire de nouvelles autoroutes et que, enfin, bah en fait, on augmente juste le niveau de frustration de la population. Et certes, ça peut provoquer des passages à l'action. Mais voilà, enfin, je pense que là, on est à un moment où stratégiquement, il faut repenser les priorités, là où on met du temps, de l'énergie. Et en tout cas, de mon point de vue, mais une fois encore, j'ai pas de réponse absolue. Il me semble que la sensibilisation est un peu moins, elle est moins prioritaire qu'il y a 10 ou 15 ans, quoi.
Ben pour revenir peut-être il y a 10 ou 15 ans, on se disait de passer un extrait, l'introduction de Mononoke. Parce que justement, vous évoquez Miyazaki aussi dans l'ouvrage, et puis c'est quelque chose qui a fait moucher certains d'entre nous. Donc on proposait d'écouter ça.
C'était il y a bien longtemps, dans une contrée lointaine, jadis recouverte de forêts. En ce temps-là, l'esprit de la nature veillait sur le monde sous la forme d'animaux gigantesques. Hommes et bêtes vivaient en harmonie. Mais les siècles passant, l'équilibre se modifia. Les rares forêts que l'homme n'avait pas saccagées furent alors protégées par des animaux immenses qui obéissaient au grand esprit de la forêt. C'était le temps des dieux et le temps des démons.
Ouais, merci. Je sais pas si tout le monde a bien... Donc c'est Princesse Mononoke. C'est un film d'animation de Miyazaki qui est un grand maître de l'animation. Et qui a fait beaucoup de films d'animation qui ont vraiment un fondement, un esprit, un message politique, vitaliste, voire animiste, très fort, très puissant. Voilà.
Alors du coup, pour faire la transition avec la question de la technologie dont vous parliez précédemment, je voudrais juste citer la page 113 de votre ouvrage. Un homme, ou plutôt je dirais l'humanité, ça s'empêche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est censé faire une bêtise... Bah, vaut mieux éviter de la faire. Donc là, vous faisiez référence au nucléaire. Du coup, là, on sera plutôt sur la question de la déforestation, notamment, puisque c'est le sujet principal de la thématique de Mononoke. Mais il n'y a pas que ça dans l'œuvre de Miyazaki, il y a aussi la question de l'adaptation et de la fuite, qui sont aussi très prégnants dans votre ouvrage. Alors, du coup, il y a tellement de choses, parce que ça, en fait, c'est une œuvre qui est tellement riche, mais comme toutes les références que vous avez dans votre livre, on ne sait plus par quel bout y prendre. Vous faites référence notamment au mouvement Chipko, qui date du début des années 70, qui signifie en hindi, pot de colle, où en fait, c'était notamment un mouvement soutenu par des femmes, qui venait se coller elle-même, enfin se tenir autour des arbres pour lutter contre la déforestation de leur territoire. Ce qui fait référence à deux choses. La première, c'est du rapport de l'être humain ou humaine à son environnement, à la nature, donc à soi-même, et aussi au fait de se couper de soi-même, donc notamment le rapport à l'animisme. Pour ceux qui sont du coin et qui s'y intéressent un peu, je pourrais faire référence à la lutte sur la RN 88 en Haute-Loire, ou même la 69, un peu plus au sud de la France. Mais pour en revenir à Miyazaki, ce qui est intéressant, c'est que dans Mononoke, parce que du coup, j'y ai trouvé subitement ce matin plusieurs autres références. Dans Mononoke, on a la question de la lutte, qu'on retrouve notamment à une autre échelle dans le domaine des dieux d'Astérix, où en fait, ils plantent des graines pour lutter contre la technologie romaine. Voilà. Par exemple, dans Totoro, où en fait, c'est deux petites filles qui se retrouvent face à au potentiel décès de leur mère et qui du coup prennent la fuite et se réfugient dans la forêt, et ben, j'ai retrouvé une partie du Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud et Jacques Prévert. Voilà. D'ailleurs, on sait très bien que Miyazaki a eu pas mal de références par rapport à Prévert. Et sur la question de l'adaptation, pour le coup, c'est pas Miyazaki, mais ça reste encore du Studio Ghibli. C'est un film de Isao Takahata, qui était son comparse, qui est décédé il y a quelques années, qui s'intitule Pompoko, où en fait c'est l'histoire des tanuki, qui sont en fait une vraie espèce, c'est un croisement entre des ursidés et des ratons laveurs, mais qui pour le coup dans le film sont métamorphes, et qui voient leur forêt rasée et décident à la base de se métamorphoser en humain pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe dans la société humaine, pourquoi il y a déforestation, et qui en fait... je vous raconte pas la fin du film parce que moi, je l'ai montré à des copains qui sont pourtant des brutes de fonderie, ils ont fini en larmes. On parlera pas du tombeau de Luciole. Mais pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de manichéisme dans Mononoke. C'est-à-dire que on se retrouve avec Dami Sashi, qui est donc, entre guillemets, la méchante du film, qui est une humaine qui veut tout raser, qui veut tuer le dieu de la forêt pour l'offrir à l'empereur, et qui, parallèlement, met tout en œuvre pour élever le statut de la femme dans sa société humaine à elle. Parallèlement à ça, on a on a toute la société de la forêt, notamment avec la tribu des sangliers, la mère louve, qui essaie, en fait, qui se retrouve entre la technologie et une société un peu plus médiévale, on va dire, à devoir lutter pour sa survie. Et au milieu de ça, une jeune fille élevée par cette louve, donc qui est San, qui est la princesse Mononoke, et un jeune homme qui ne vient pas du tout de ce milieu et qui est en plein voyage, qui se retrouve à devoir faire l'intermédiaire. Et en fait, c'est ça que moi je trouve intéressant dans ces œuvres-là, c'est que on se retrouve avec des individus, hommes ou femmes. Bon, là, généralement, chez Miyazaki, on est quand même plutôt sur des ados, pareil dans Nausicaa ou dans Chihiro, qui en fait partent pour se retrouver. Et en fait repensent aussi leur rapport à la nature et à la technologie, ce qu'on peut retrouver notamment dans le château dans le ciel ou dans le château ambulant, ou voire même dans Le Roi et l'Oiseau, par exemple. Et en fait, justement, moi, la question que je voulais vous poser, c'est que ce rapport à la technologie, pourquoi cette référence? Parce que au final, Mononoke, elle est quand même sacrément extrémiste, quoi. Elle veut tous les défoncer. Du coup, pourquoi cette référence?
Pourquoi cette référence? Pour toutes ces raisons-là. Parce que effectivement, je trouve que c'est parmi les films les plus grand public au sens tout public en fait. Enfin, les films de Miyazaki, c'est vraiment des films qui peuvent être regardés assez largement. Alors peut-être pas par des tout petits, mais quand même. Enfin, en tout cas, qu'on peut regarder quand même en famille. et qui sont très forts à plein de niveaux de lecture différents, quoi, qui sont très forts visuellement, qui sont très forts dans le message, politiquement, éthiquement, et avec justement des personnages qui sont encore des personnages quand même héroïques, dans le sens où il y a quand même souvent ce truc un peu de quête avec une situation initiale, un élément perturbateur, le personnage qui va justement devoir partir, mener un combat ou une quête pour pouvoir revenir à la situation, pas tout à fait de départ, mais à une situation plus apaisée. Donc on retrouve un peu des narrations assez classiques, mais tout en bousculant complètement les codes de l'héroïsme, parce que effectivement ça va être une jeune fille, des enfants, et donc on n'est pas du tout dans le super-héros testostéroné comme on le voit dans beaucoup d'autres films censés être des films familiaux tout public, mais qui véhiculent pas du tout les mêmes valeurs. Voilà, c'est tous les Marvel et compagnie. On peut aimer les regarder, et on peut aimer les regarder tout en étant quand même conscient que on est en train de regarder un truc qui véhicule des valeurs qui sont pas les nôtres, quoi.
Oui, puis Miyazaki, pour moi, fait du bien, parce qu'en fait, souvent, on se demande à quoi bon continuer à écrire, à faire des films, ou... Et puis on se demande si, en fait, si on n'avait pas tous été biberonnés, tous et toutes biberonnés à Miyazaki, est-ce que les mouvements de révolte militants tels qu'on les connaît aujourd'hui, on a peut-être une petite pensée pour les écureuils qui viennent de gagner grâce aux mésanges, dans quelle mesure justement ces écureuils n'ont pas aussi grandi avec ça, dans quelle mesure ça n'a pas nourri justement des imaginaires?
Peut-être qu'il faut expliciter un peu les écureuils et les mésanges.
Ouais, c'est sur la lutte sur l'autoroute A69 près de Castres. Et donc y a les écureuils, c'est ceux et celles qui sont mis à s'accrocher aux arbres, à grimper aux arbres, à vivre dans les arbres, et notamment dans des conditions assez difficiles, enfin même très difficiles, hein, parce qu'ils ont été coupés de nourriture, coupés d'eau pendant tout un moment. Et là, ils étaient, je pense, alors moi j'ai pas été sur le terrain, mais ils étaient vraiment à bout de force. Et en fait, il se passe qu'on arrive au printemps, c'est la saison de nidification, et ils ont réussi à repérer dans les arbres quelques mésanges bleus, qui est une espèce protégée, et qui a commencé à faire ses nids dans les arbres qu'ils étaient en train de protéger eux. Et à partir de là, ben, on a dû, enfin, l'État, le préfet a dû mettre, en tout cas, les travaux en pause pour respecter la nidification des oiseaux. Donc, les écureuils ont pu descendre des arbres, sont, j'espère, en train de se ravitailler. Et donc, quand on voit ces formes de lutte émerger et la manière dont c'est en train de se combiner, on peut pas ne pas penser justement à Miyazaki, à ce qu'il a pu véhiculer comme imaginaire. Mais on va peut-être passer justement sur la troisième partie et sur l'alternative. Et tu fais le constat de beaucoup d'impasses, impasses politiques, impasses, voilà, tu prends l'exemple des Gilets jaunes ou des grandes mobilisations aussi, ou de nombre de signatures, alors je ne sais plus c'était pour quoi, mais enfin...
Pour l'affaire du siècle,
2000...
Plus de 2 millions de signatures, voilà. Sur une pétition, effectivement, demandant à l'État, en fait, de prendre des objectifs ambitieux sur les questions environnementales et de s'y tenir. Et c'est vrai que c'est un exemple que je prends régulièrement, parce que moi j'ai commencé à militer sur ces questions de manière vraiment très forte il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, si on nous avait dit qu'il y aurait plus de 2 millions de signatures sur une pétition sur des questions de climat et de biodiversité, on n'y aurait pas cru, et puis surtout on se serait dit c'est bon, enfin c'est gagné, quoi. Et là on voit bien que en fait 2 millions de signatures ça suffit pas non plus, quoi.
Et donc tu proposes quand même des voies alternatives, parce que c'est pas qu'un constat d'échec, parce que justement, alors je cite juste un petit passage et puis on va l'enrichir, hein, mais je crois qu'il s'agit de faire sans attendre avec le déjà là et de ne compter que sur nous-mêmes, de mêler le préfiguratif qui donne à voir dès maintenant ce à quoi pourrait ressembler l'avenir et le performatif pour matérialiser ce que l'on veut voir advenir. À cela, tu ajoutes aussi la question de l'offensif, et que tu invites à sortir d'une binarité d'opposition, hein, violence, non-violence, réformisme, révolutionnaire, radicaux, action molle, et pour envisager en fait une stratégie de lutte en trois dimensions, performatif, figuratif, offensif. Alors moi, ça me fait penser un peu à Flatland. Je ne sais pas si tu connais cet ouvrage du 19e siècle de Abbott. C'est un carré qui vit au monde des points, lignes, plans et qui découvre la troisième dimension. C'est passionnant et c'est un ouvrage de science-fiction. Mais... Donc dans l'ouvrage, il devient vite un gourou religieux et il se fait condamner. Mais bon, ce n'est pas ce que je souhaite et ce n'est pas ce que je ressens. Mais donc peut-être déjà revenir sur ces trois termes pour les expliquer au public qui n'a pas forcément connaissance. Et je pense que c'est des pistes intéressantes. Et puis après, on va peut-être venir sur une série de questions pour les approfondir parce que...
Oui, la... alors c'est vrai que la fin du livre, en fait, est davantage politique au sens davantage en prise avec avec le réel. On est moins en train de d'aller trouver la beauté ailleurs, parce que ça correspond aussi à mon retour en France et à l'arrivée dans un Paris qui est explosé de poubelles partout parce qu'on est en plein mouvement des retraites. Moi, le soir où je rentre, il y a le feu à Opéra. C'est une espèce d'atterrissage pas très doux. Et donc toute la fin du livre est vraiment plus spécifiquement sur les questions, notamment de stratégie militante, en fait. De dire, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait ? Où on est ? Ce que je disais par exemple tout à l'heure sur cette hypothèse d'un plafond de verre sur la question de la sensibilisation, de la prise de conscience, le fait que on a comme j'aurai l'occasion de le redire, mais on a quand même eu aussi un avant et un après Sainte-Soline qui en matière de répression policière et de répression judiciaire sur tout un tas d'autres affaires, notamment l'affaire du 8 décembre pour celles et ceux qui ont suivi. En tout cas, la donne, elle a changé, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. La donne, elle a changé. La donne, elle n'est pas celle qu'on avait il y a 15 ans, il y a 10 ans, ni même il y a 5 ans. Et donc, comment est-ce qu'on repart du réel, et non pas du monde tel qu'on aimerait qu'il soit, mais comment on repart du réel, de cette donne-là, pour se poser la question de comment on est efficace, comment on est utile, comment on ne s'épuise pas, sans rechercher la baguette magique, parce qu'il n'y en a pas sur ces questions-là, et même sans chercher la solution, parce que je crois qu'il n'y en a pas non plus. Mais en tout cas, comment on fait pour que le temps et l'énergie qu'on donne au militantisme soit pas complètement vain, quoi. On va dire comme ça. Et donc, j'avance quelques hypothèses dans le livre, notamment donc celle-ci, qui est on a besoin de passer d'un registre revendicatif à un registre performatif. C'est-à-dire que le registre revendicatif, c'est ce qui nous a permis par ailleurs d'obtenir un certain nombre d'acquis sociaux, hein, aujourd'hui, il n'est plus opérant, en fait. C'est-à-dire que même en étant très nombreux, au même endroit, en même temps, avec les mêmes revendications, on voit bien qu'en face, ça bouge pas. Que le rapport de force, en fait, passe plus par la culture du nombre. J'essaye de varier les mots pour être explicite. Et donc, ça, plus cette idée de plafond de verre, là, de la prise de conscience, ça fait que finalement, aujourd'hui, des actions dont l'objectif est d'être pris par les médias, de faire parler de telle ou telle cause, ou de créer des mouvements très larges, unitaires, avec un objet bien précis. Pour moi, c'est malheureusement des stratégies qui aujourd'hui n'ont plus les effets escomptés, quoi, ou qui se trompent carrément d'objectif. Et qui du coup, en plus, au passage, enfin tout ce qui relève aujourd'hui de la communication politique et non pas de l'action politique, et je mets là-dedans la question électorale, en fait, c'est un gouffre de temps et d'énergie passé à gagner des abonnés sur Twitter, à commenter l'actualité, à réagir à la dernière petite phrase de je sais pas quel ministre, à gagner en visibilité médiatique. Et donc, et ça, c'est devenu un espèce de passage obligé aujourd'hui pour participer à la politique institutionnelle, se présenter aux élections, etc. Et en fait, c'est ultra chronophage. En fait, ça prend tout le temps. Et il n'y a plus de temps pour l'action politique. L'action politique qui a pendant très longtemps été prise en charge par des partis et des syndicats qui avaient un effet immédiat sur la vie des personnes et qui ne visaient pas à augmenter les chances d'une hypothétique prise de pouvoir un jour pour ensuite changer la vie des gens. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'on fait là maintenant avec ce qu'on a, quoi ? Et donc, passer du registre revendicatif au registre performatif, c'est cette idée-là, en fait. C'est parce que le performatif, dans le langage, le performatif, c'est quand énoncer quelque chose, c'est le faire advenir. C'est, par exemple, dire, voilà, si je dis là maintenant, cette rencontre est terminée, que je pose mon micro, la rencontre, elle est terminée. C'est performatif. Réfléchir en termes d'action performative, ça veut dire qu'est-ce que là, aujourd'hui, ici et maintenant, avec tout le déjà existant, parce qu'en réalité, il y a quand même pas mal de choses qui existent déjà, et notamment depuis 5 ans, et notamment depuis la pandémie, en termes de réseaux de solidarité et d'entraide, en termes de cantines collectives, de réseaux de ravitaillement des luttes, de plus en plus maintenant de réseaux aussi de prise en charge en termes de soins. Il y a quand même pas mal de choses qui existent. Il y a aussi tout un réseau associatif. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour faire sans avoir besoin de demander toujours aux institutions de nous filer une autorisation ou de l'argent ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Et puis je vais aller plus vite sur le préfiguratif parce que c'est une autre manière de parler des alternatives. C'est juste, moi, ça fait 15 ans que je parle des alternatives, j'en peux plus des alternatives. Et en plus, qui sont pas vraiment alternatives, qui en tout cas, jusqu'ici, n'ont pas empêché le capitalisme de progresser. Et donc parler de préfiguratif, c'est une manière un peu différente que j'ai aussi pas mal emprunté à David Graeber, qui disait quelque chose qui, moi, m'inspire beaucoup, qui parlait de vivre comme si nous étions déjà libres. Et donc, là aussi, dès maintenant, imaginer d'autres manières de vivre, plus ou moins en dehors de la sphère marchande, plus ou moins avec d'autres manières de prendre des décisions collectives. Et donc, c'est tout ce qui s'invente aujourd'hui dans des tiers-lieux, dans des fermes collectives, dans des ZAD, dans des squats, dans des réseaux associatifs, dans des locaux associatifs, etc. Et juste pour finir là-dessus, parce que c'est vraiment très important, quand en tout cas, moi, j'y tiens beaucoup quand je commence à parler de ces questions-là, c'est vraiment de rappeler un truc et un outil que moi, je trouve hyper utile, qui vient de l'éducation populaire, qui est le trépied de la transformation sociale. Et qui dit, en fait, quand on veut vraiment obtenir une transformation en profondeur d'une société, on a besoin de s'appuyer sur trois pieds ou d'actionner trois leviers. Il y a un levier qui est justement celui des alternatives ou du préfiguratif, c'est-à-dire faire la démonstration qu'il est possible de vivre différemment, parce qu'on entend tellement dire depuis Margaret Thatcher et Ronald Reagan qu'il n'y a pas d'alternative, que de toute manière on ne sait pas faire autrement que dans le capitalisme, etc. Donc faire la démonstration que c'est possible, même si c'est à petite échelle, mais la faire. Il y a la question, bien entendu, de la résistance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on préserve ce qui est encore là, comment est-ce qu'on empêche que les dernières terres agricoles soient bétonnées, etc., etc. Et puis, il y a le troisième pied qui est celui de la bataille culturelle. Dans la bataille culturelle, il y a autant justement la question des récits, des imaginaires, de changer notre rapport au monde, de décadrer notre regard, de sortir d'une vision très anthropocentrée, très occidentalocentrée. Mais il y a aussi le fait de bouger ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire ce qui est acceptable ou inacceptable dans la population qui n'est pas la plus engagée, on va dire. Et en fait, c'est hyper important vraiment d'avoir les trois en tête. Parce que si vous avez que des actions de résistance et d'occupation, par exemple, de terres agricoles pour empêcher qu'elles soient bétonnées, mais que vous n'avez pas, à côté de ça, une bataille culturelle qui permet d'obtenir du soutien dans la population de manière plus large, et que vous n'avez pas à côté de ça des alternatives du préfiguratif qui montrent que, en fait, une fois que les terres agricoles elles sont sauvées, c'est pas juste le retour à un état antérieur, c'est aussi ouvrir la possibilité de cultiver différemment, etc. Ben en fait vous êtes que dans la résistance, vous vous épuisez, vous finissez en burn-out, et en fait on perd des militants à la cause, quoi. De la même manière que s'il n'y a que des alternatives, bah en fait des alternatives, moi je viens de la Drôme, en Drôme-Ardèche, des communautés alternatives, il y en a depuis la fin des années 60, et c'est hyper génial pour les gens qui y vivent sûrement, mais ça n'a pas du tout empêché le système de continuer à progresser. Et de la même manière que laisser croire, comme je l'entends parfois en ce moment, qu'il suffirait d'inventer de nouveaux récits pour que la société se transforme, bah c'est pas vrai non plus, en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une manière de, à nouveau, refaire poser sur les individus des choix qui dépendent pas que du bon vouloir et de la sensibilisation et de la sensibilité des individus. Parce que ça voudrait dire, c'est une manière de faire comme s'il n'y avait pas de rapport de force et de domination dans la société, quoi. Donc c'est vraiment ces trois-là, toujours à penser ensemble, de manière simultanée, et les trois, en fait, sont des conditions nécessaires mais non suffisantes. Voilà, pardon, je suis allée un peu loin, mais non. Du coup c'était important de le dire pour moi.
C'était trop bien, et justement, on va clôturer avec une dernière question pour ensuite passer à un temps d'échange, si vous avez des questions, vous, et ensuite peut-être une phase de dédicace, je crois, c'est ça. Donc voilà, et ça serait juste conclure, justement, sur la question du Rojava, où vous avez passé 5 ans, je crois, c'est ça.
Non,
pas 5 ans, non, d'accord. Non. Vous avez passé quelques... Vous y êtes allé, en tout cas.
Je suis fatiguée, rien d'y penser, là.
Et la question est justement plus positive, dans le sens où, déjà, ça serait savoir quel est le mouvement passé, présent, qui a pu le plus vous inspirer, que ce soit un mouvement féministe, écolo, écoféministe en général. Et justement, sur la question du Rojava, est-ce que ça ne serait pas une société qui serait une manière d'envisager les choses, même si on sait avec la guerre c'est compliqué, que c'est un pouvoir qui est un peu... Enfin, il y a l'armée, quoi, quand même. Et voilà, savoir votre avis là-dessus, sachant que sur la question du récit et de la prison notamment, je m'étais renseigné, j'avais vu que celui qui était à l'initiative de ça, qui est Abdullah Ocalan, voilà, et qui a entretenu en prison une relation épistolaire avec Murray Bookchin, donc qui est un anarchiste qui a théorisé le municipalisme libertaire, et donc qui a inspiré cette société du Rojava. Donc voilà, savoir si ces relations-là épistolaires, ces manières d'envisager les choses, ces penseurs et penseuses qui ont pu inspirer nos luttes, quelles sont les luttes qui peuvent être inspirantes, quels sont les penseurs, penseuses qui peuvent être inspirants. C'est très compliqué comme question peut-être, mais voilà.
Oui, mais du coup je vais un peu battre en brèche quand même, parce que sinon on pourrait passer toute la soirée là-dessus. Juste redire, bon, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc on parle du nord-est de la Syrie. On parle au départ du Rojava, qui est vraiment une bande de territoire au nord de la Syrie qui jouxte la frontière avec la Turquie, le mur frontière avec la Turquie, et qui est peuplé pour cette bande du nord à majorité kurde. Et donc, en fait, ce territoire, il s'est déclaré de facto autonome du régime de Bachar el-Assad. Et donc, et il s'est considérablement agrandi, et notamment vers des régions peuplées majoritairement arabes, au fur et à mesure des combats contre Daesh, au fur et à mesure des victoires contre Daesh. Donc en fait, aujourd'hui, c'est quand même un territoire assez grand, avec donc une coalition arabo-kurde, et qui est, comme je le disais tout à l'heure... Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment la version dystopique du futur, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est du conflit armé sur des bases idéologiques et religieuses et d'extrémisme dans le cas de Daesh, de l'État islamique. C'est des combats géostratégiques, géopolitiques, notamment pour l'appropriation de la ressource en eau, parce que la Turquie a construit des barrages en amont qui prive d'eau tout l'aval, notamment cette partie-là de la Syrie, mais aussi l'Irak. C'est le feu qui est utilisé comme arme de guerre dans les champs de céréales et dans les silos de céréales, donc avec une guerre de la faim aussi qui est menée. Rajouter à ça le fait qu'il y a pas de, il y a un peu de pétrole, mais il n'y a pas de raffinerie sur place, que donc en fait c'est du pétrole non raffiné qui est utilisé partout, donc en fait l'odeur du Rojava c'est une odeur abominable de pétrole non raffiné qui est utilisé parce qu'en fait il y a un blocus qui fait qu'il n'y a rien d'autre qui rentre, des pénuries alimentaires, enfin bon bref, c'est, là on est vraiment dans la dystopie de chez dystopie, du scénario le pire en fait de plein de choses qu'on sent larver aujourd'hui, hein, parce que la question des conflits pour l'accaparement des dernières ressources disponibles, ça nous pend quand même au nez. Et je sais pas ici, mais moi je sais que dans la Drôme, les conflits d'usage sur l'eau, ça y est, hein, c'est parti, et c'est parti entre voisins, entre riverains et agriculteurs, ça va commencer à s'écharper dans tous les sens. Donc voilà, pour le Rojava, il y a plein de choses hyper intéressantes, notamment effectivement sur les tentatives de mise en place du confédéralisme démocratique, c'est-à-dire en fait comment on fait pour auto-administrer un territoire avec toutes ces conditions-là, mais de manière auto-organisé, sans État centralisé, avec d'autres principes démocratiques. Donc, moi, je trouve ça hyper intéressant et vraiment passionnant. Je ne vais pas avoir trop le temps de développer là, mais vous pouvez trouver des ressources là-dessus. Il y a des livres qui ont été écrits, il y a des choses en ligne. Pour ceux que ça intéresse, moi, j'y suis allée à 3 reprises, à chaque fois sur une petite période de temps. D'une quinzaine de jours. Et j'avais publié des carnets de. Je sais plus comment je les ai appelés. De route, de voyage, de séjour. Enfin bon, bref, des carnets de retour sur une revue en ligne qui s'appelle Ballast. B-A-L-A-S-T. On avait publié en 3 volets et dans lesquels je raconte à la fois le périple. Les gens qu'on rencontre, mais où j'essaye de glisser aussi le municipalisme libertaire, etc. J'avais fait un reportage aussi pour Philosophie Magazine, mais je crois qu'ils ils l'ont toujours pas mis en accès. Faut que je leur redemande de le mettre en accès libre. Voilà. Et pour conclure sur des luttes ou des figures inspirantes, il y en aurait quand même. Bon, il y en aurait plein à mentionner, puis on en a quand même mentionné pas mal. Mais du coup, il y a une figure dont on n'a pas parlé du tout, et qui pourtant est très présente dans mon livre. Et donc, j'aimerais bien conclure sur elle, c'est Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg, qui, au début du XXe siècle, était une grande militante marxiste révolutionnaire, qui a pris position contre la majorité de l'opinion et contre ses propres camarades, bien souvent en faveur de la paix au moment de la Première Guerre mondiale, et qui pour ça a été incarcérée de 1915 à 1918 dans 3 prisons différentes, et qui a écrit des lettres de prison. Et dans ces lettres de prison, en fait, elle fait preuve d'une vitalité et d'une capacité d'émerveillement à toute épreuve, qui est pour moi vraiment un modèle, quoi. C'est-à-dire que elle est en prison, c'est la Première Guerre mondiale, elle a une grande partie de ses camarades contre elle, voilà. En plus, Les camarades et les amis qui lui écrivent pour l'accabler de leur désespoir, du fait qu'ils sont au bout de leur vie, etc. Et elle leur répond en leur disant, mais en fait, on n'a pas le droit de perdre le moral, on n'a pas le droit de désespérer, on n'a pas le droit de perdre les bras. Et regardez autour de vous, quoi. Et elle, de sa prison, Elle continue à regarder la forme des nuages dans le ciel. Elle recueille une coccinelle gelée l'hiver. Elle arrive à aller trouver la beauté dans ces merveilleux insignifiants. Et ce que je trouve génial dans la figure de Rosa Luxembourg, c'est qu'elle est au-delà de tout soupçon. Je veux dire, c'est une grande militante révolutionnaire, reconnue comme telle par tout le monde, y compris d'ailleurs par ses adversaires. Et donc, en fait, c'est génial de l'appeler à la rescousse, parce que c'est vraiment la preuve incarnée qu'on peut aimer les petites fleurs et s'intéresser au sort du sort des oiseaux et à la poésie d'une lumière changeante dans le ciel, sans que ça enlève en rien à l'engagement, à la radicalité des idées et à la capacité à aussi aller sur le terrain. Et donc ça, je trouve que c'est hyper précieux aujourd'hui, en fait. Du coup, ça reboucle sur l'introduction, c'est très bien, pour justement refuser de choisir entre militantisme et gentillesse, entre lucidité et émerveillement, plutôt apprendre à naviguer, à faire ses allers-retours, ses va-et-vient, mais sans que ça n'enlève rien, au contraire, en faisant en sorte que les deux pôles puissent s'alimenter et se nourrir de manière réciproque.
N'oubliez pas, même si vous êtes occupé, même si vous traversez la cour à la hâte, absorbé par vos tâches urgentes, n'oubliez pas de lever la tête un instant et de jeter un œil à ces immenses nuages argentés et au paisible océan bleu dans lequel ils nagent. Donc c'est quand vous citez Rosa. On peut passer aux questions dans le public.
Oui, bonjour, je m'appelle Jean, je ne vous dis pas mon nom parce que ça va vous faire rire. Je m'appelle Jean Siri. Et donc, c'est pour revenir à votre expérience d'une forme de ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui, dans les réflexions des états généraux du post-urbain, le biorégionalisme, qui est une organisation différente de ce que vous avez connu dans votre vie politique, en tant que conseillère régionale, en tant que militante politique. C'est aussi une vision de la vie. Alors moi, j'ai le bonheur ou le malheur d'avoir 20 ans en 68. En 68, nous vivions avec des utopies. Les utopies qui étaient que c'était la politique qui allait nous changer la vie. Mais jusqu'en 80, on a bien compris que c'est pas la politique qui allait changer notre vie. Il fallait qu'on la change nous-mêmes, dans nos pratiques, dans nos actions. Et à travers l'éducation populaire que vous avez citée, c'est comme ça. Quand on n'a pas fait les universités, ce qui est mon cas, mon parcours de vie a fait que je suis devenu ce que je suis au jour d'aujourd'hui, maintenant que j'ai 3 fois 25 ans, c'est d'être aussi un acteur de terrain. Et ces utopies qu'on avait en 68 sont balayées. Quelles seront les utopies du 21e siècle ? Est-ce que c'est le biorégionalisme qui va être une forme d'organisation qui rejoint le municipalisme? Moi, j'ai la chance d'habiter entre une métropole clermontoise et le plateau de Millevaches. Alors, vous voyez d'où peut être mon inspiration. Et donc, sur cette question, l'utopie du 21e siècle sera une utopie ou une réalité à partir de réflexions qui se mènent sur une manière de vivre autrement les territoires.
Bon, là, pareil, je vais être obligée de battre un peu en brèche parce que c'est la question à laquelle j'essaye de contribuer depuis 15 ans et j'ai toujours pas trouvé vraiment la réponse. Moi, pendant un temps, j'ai été très porteuse d'un projet politique qui s'appelle l'écosocialisme, partait du principe en fait que ce qui n'allait pas d'un point de vue social et ce qui n'allait pas d'un point de vue environnemental avaient les mêmes causes et qui sont des causes de prédation, de domination et de recherche de profit maximal avec dans une période de temps minimale, ce qui est la définition du capitalisme. et donc qu'il fallait prendre le meilleur de l'écologie politique, le meilleur du socialisme au sens historique du terme, et en faire un projet justement pour l'avenir. Moi je suis très intéressée aussi, enfin je trouve qu'il y a vraiment des réflexions passionnantes qui se font sur le biorégionalisme en ce moment, et bon, je vais pas développer là, mais effectivement je pense que notamment le fait, si je fais un résumé vraiment très très à la hache, mais l'idée de partir des bassins de vie en fait. Des bassins de vie et des ressources qui existent sur un territoire en termes de subsistance et d'organiser en fait que l'organisation collective de la société se fasse plutôt autour de ça et à cette échelle-là que selon des échelons administratifs aujourd'hui qui n'ont absolument aucun sens. Enfin voilà, je veux dire, énoncer comme ça, il me semble que c'est du bon sens, quoi, de partir du fait que où est-ce qu'il y a de l'eau, où est-ce qu'il y a des forêts, où est-ce qu'il y a, enfin. Voilà. Donc je trouve que c'est très intéressant, et c'est d'autant plus intéressant que parallèlement à la montée en puissance là du biorégionalisme, il y a aussi la montée en puissance de ce qu'on appelle la théorie, enfin la perspective de la subsistance, beaucoup notamment dans les réseaux écoféministes, mais pas seulement, aussi autour des travaux de Geneviève Pruvot et puis des travaux plus anciens de Maria Miss. Et je trouve qu'il y a là des choses à articuler entre elles, qui sont hyper intéressantes, je pense vraiment pour la suite, et qui sont hyper intéressantes pour la suite, quelle que soit la suite. C'est surtout ça que je trouve intéressant, de la même manière que voilà, moi je suis hyper heureuse de voir se développer des chantiers reprises de savoir. Vous pouvez trouver ça aussi sur Internet. Qui nous permettent de regagner en autonomie politique et matérielle, de savoir à la fois théorique, mais aussi manuel, artisanaux. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, que ce soit le biorégionalisme, la perspective de subsistance ou les chantiers de reprise de savoir, c'est que quoi qu'il se passe, en fait, par la suite, c'est pertinent, en fait. Voilà. En fait, c'est pertinent quoi qu'il se passe ensuite. Parce que qu'on se retrouve dans une société qui doit se démerder sans numérique et avec des coupures d'électricité beaucoup plus fréquentes, ou qu'on se retrouve dans une société ultra-capitaliste avec une société de vitesse, avec une petite poignée de personnes qui s'accaparent tout ce qui reste, et puis les autres qui restent englués dans une forme de capitalisme encore plus dégradée qu'elle ne l'est aujourd'hui pour les plus précaires. En fait, quels que soient les scénarios, avoir repris de l'autonomie collective, avoir appris à faire des choses avec nos mains sans être toujours en train de demander à une application comment il faut faire, je pense que c'est, enfin voilà, c'est jamais perdu, quoi. Donc voilà, c'est, puis du coup ça rejoint un peu les sources d'inspiration, c'est un peu plus actuel que Rosa Luxembourg.
D'autres questions?
Alors, je pourrais avoir des tas de choses à dire, mais il va falloir choisir. Vous parliez tout à l'heure d'une lassitude à l'idée d'essayer de convaincre les gens à travers de la création. J'ai l'impression qu'une des pistes qui fait qu'on n'y arrive pas tellement, c'est qu'on ne s'adresse pas au bon public dans un cadre démocratique, et avec la pyramide d'âge française. On parle beaucoup des jeunes, de convaincre les jeunes sur les questions écologiques, mais il se trouve qu'en termes de masse de population, on gagnerait probablement à s'adresser aux plus de 65 ans, parce que globalement, c'est cette population-là qui fait le vainqueur des élections et donc le décisionnaire. Est-ce qu'il y a des pistes à cet endroit-là? Je ne suis pas là pour blâmer les plus de 65 ans ici de notre président. Hein. Mais Comment est-ce qu'on peut changer aussi ces idées-là de s'appuyer sur des données, sur des approches un peu démographiques pour aussi choisir à qui on s'adresse, comment on s'adresse, comment on convainc, quel discours on tient pour changer les choses, parce que, enfin, parler au moins de 30 ans, ça changera strictement rien au résultat des élections, quoi.
Alors là, pour le coup, moi, je suis vraiment pas la bonne personne pour ça, parce que moi, j'ai commencé par faire des études de commerce et de marketing, et donc, depuis, j'ai totalement arrêté. Donc, je ne réfléchis plus en termes de cible, de la même manière que quand j'écris un livre, je me pose pas la question, en fait, de savoir à qui ce livre va s'adresser. Ou quand j'écris un roman, j'écris pas un roman à thèse en me disant ah bah tiens je vais écrire un roman pour passer tel message politique. Donc du coup je suis assez nulle aujourd'hui en marketing au sens large du terme. Donc voilà, donc moi je suis pas très bonne là-dessus, mais ce que je peux dire par contre, et là pour, par contre je peux vraiment en témoigner de manière directe, c'est que moi pendant 10 ans j'ai essayé de convaincre les gens. Et franchement, j'avais des super arguments. J'avais tous les chiffres, j'avais les bons éléments de langage. En plus, voilà, j'étais rodée parce que je tournais beaucoup, je faisais beaucoup d'interventions partout en France. Et ça ne marchait pas. Et aujourd'hui, j'ai arrêté totalement d'essayer de convaincre qui que ce soit. Et ce que je fais, c'est que je pose des questions, en fait. Et je pense que même dans mes deux essais, je propose pas de solution, en fait. Je dis pas... Bon, je pense qu'on comprend vers quoi je vais. Mais je dis pas il faut faire telle chose ou il faut arrêter de faire telle autre. Voilà, sur la question par exemple des institutions et des élections, moi je dis pas aux gens qu'il faut arrêter d'aller voter, je leur dis pas qu'il faut arrêter de se présenter. Je dis franchement, si vous en avez l'envie, si vous avez le feu, si vous avez l'énergie, franchement allez-y quoi. Parce qu'il s'agit pas non plus de laisser les clés aux plus pourris et à l'extrême droite et à Laurent Wauquiez quoi. Et que en plus, je pense qu'au niveau municipal, par exemple, il y a plein de trucs à faire. Enfin, ben, moi, je suis pas pour déserter, mais par exemple, sur ce point précis, quand des personnes me demandent ce que j'en pense ou me demandent conseil parce qu'elles ont été approchées pour être sur telle ou telle liste, etc., je vais plutôt les inviter en fait à se questionner sur leurs objectifs. Si l'objectif, c'est de peser sur un rapport de force vis-à-vis de je sais pas quoi, du gouvernement, de la préfecture et tout, je vais dire peut-être c'est pas là qu'il faut aller. Par contre, si c'est l'objectif, c'est avec les leviers qui existent au niveau municipal de changer concrètement la vie des habitants de tel ou tel quartier, etc. Là, oui, il y a des marges de manœuvre et on peut faire des choses. Et on peut faire des choses tout de suite. Donc c'est, enfin vraiment, j'ai l'impression aujourd'hui d'être dans un truc plus de maïeutique et de questionnement que dans le fait d'essayer de convaincre les gens. Et c'est ce qui fait aussi, je crois que, enfin moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu avec mes deux essais davantage d'impact en l'espace de 5 ans que en 15 ans de militantisme partidaire avec des tracts et des propositions et un programme et mais parce qu'on y va par un autre biais, et puis parce que pour le coup ça touche aussi des personnes différentes, parce que moi avec les romans jeunesse, je vais dans des écoles, je vais dans des collèges, je vais dans des lycées, je vais à la fac, je vais dans des librairies avec les essais, avec les romans adultes, je vais dans des festivals qui sont pas des festivals militants, et en fait c'est hyper intéressant la manière dont la relation se noue autour d'une lecture. Parce qu'en fait, il y a une espèce de complicité qui est incroyable avec des personnes parce qu'elles ont lu votre livre et qu'elles ont l'impression déjà de vous connaître un peu, d'être déjà rentrées en relation avec vous. Ce qui fait en fait que quand elles arrivent en librairie, au bout de 3 minutes, on est déjà en train d'avoir des discussions qui sont des discussions de confiance en fait. Et donc c'est vraiment une porte d'entrée totalement différente, qui est peut-être pas, comme je disais tout à l'heure, la plus grand public, mais quand ça touche quand même vraiment profondément, et avec en plus un effet, en tout cas pour ces deux essais, de prosélytisme, qui est totalement délégué aux lectrices et aux lecteurs, parce qu'en fait finalement c'est eux qui vont passer le livre, l'offrir autour d'eux, se faire les passeurs et les diffuseurs, et que ça aussi, ça a beaucoup plus d'impact. Quand c'est un pote qui vous offre un livre, ou quand c'est votre fille, ou quand c'est votre grand-père, que quand c'est une inconnue avec un tract ou un livre dans la main, quoi. Donc voilà, donc c'est pas pour ça au départ, enfin je l'avais pas fait, je me suis pas dit tout ça, il y avait pas de plan, mais c'est intéressant quand même de le constater.
Merci beaucoup infiniment.